La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, la philosophie bergsonienne, troisième semaine, le moi. Le moi, avant d'aborder la substance. Alors, qu'est-ce que le moi ? Pour Bergson, nous sommes une mémoire, une durée individuelle, c'est-à-dire un changement pur qui est indivisible, qui se conserve donc intégralement depuis notre naissance. Maritain commente, c'est là notre moi ou notre âme ou notre conscience ou notre mémoire, quatre quasi synonymes. Nous nous transportons sans cesse, comme nous l'avons vu plus haut, du moi profond au moi superficiel, du plan du rêve au plan de l'action. Entre ces deux plans extrêmes, il y a une infinité de plans intermédiaires. Maritain fait référence ici à un schéma proposé par Bergson dans Matière et mémoire. C'est un cône où la partie pointue est en bas et la partie, le cercle large est en haut, c'est le passé. Et la partie pointue, c'est le corps qui permet de toucher le monde matériel. Et du cône pointu en bas à la partie, à la base qui est large du passé, il y a ces états intermédiaires et c'est un mouvement permanent. Du coup, c'est le mouvement qui l'emporte pour décrire le corps et pour décrire le moi. Et vous voyez ici combien Bergson finalement peut être apparenté à Descartes parce qu'on est dans une théorie moderne qui est supervisée par les avancées de la physique galiléenne, où le mouvement est très important. Donc pour Maritain, il commente Bergson en disant que finalement, il y a une infinité de degrés entre la spiritualité et la matérialité. L'âme, la conscience ou notre durée intégrale déborde le corps ou le cerveau de toutes parts, en un certain sens dans l'étendue par la perception, mais surtout dans le temps par la mémoire. Toute tournée vers l'action, elle fait constamment pression sur le corps pour mettre plus d'elle-même dans l'action présente. Le corps, au contraire, élimine de ce passé qui tend à s'actualiser tout ce qui ne cadre pas avec l'action présente. Le corps, tout en étant purement matériel et en n'ayant qu'une fonction motrice, transformation des vibrations externes en réactions musculaires et actualisation du souvenir pur en mouvement, constitue ainsi la pointe aiguë par où l'âme agit dans le monde. La pointe aiguë, il s'agit ici du commentaire de ce cône inversé où la pointe est en bas. C'est le cône de matière et mémoire de Bergson. Dès lors, Maritain peut rapprocher Bergson et Descartes. La philosophie bergsonienne se propose ainsi de distinguer et unir l'âme et le corps, non plus en fonction de l'espace, comme les cartésiens l'ont fait d'après M. Bergson, mais en fonction du temps. Tel apparaît, brièvement résumé, cette doctrine où les hypothèses les plus vastes et les plus audacieuses se glissent à travers un monceau de faits scientifiques obscurs, étudiés avec scrupule et minutie, et où une sorte de grand rêve métaphysique se mêle à maintes observations psychologiques subtiles et profondes. La donnerons-nous, comme M. Leroy, pour l'observation positive du point de jonction du contact vivant de la matière avec l'esprit? Il serait absurde, certes, de vouloir distinguer l'âme et le corps en fonction de l'espace. Pourquoi? Parce que l'espace suit à l'accident quantité et qu'il s'agit de la substance de l'homme. Pour voir la distinction comme l'union de l'âme et du corps, un seul point de vue est possible, c'est celui de l'être. M. Bergson, lui, ne les distingue ni en fonction de l'être, ni en fonction de l'espace, mais en fonction du temps. Du temps, c'est-à-dire de la moins substantielle des réalités, de la plus accidentelle, des conditions que la matière nous impose. Dès lors, tout ce qui est de l'essence de l'homme est obscurci et fuit comme le temps lui-même. L'âme n'est plus qu'une certaine manière de durer, le corps une autre manière de durer. Mais avant d'insister sur cet aspect de la doctrine bergsonienne, il convient d'examiner rapidement, au point de vue psychologique, les différentes théories proposées dans matière et mémoire. Je ne vais pas les passer en revue, parce qu'il y en a encore pour 20 pages, mais je vais arriver à la conclusion sur la théorie du moi, puisque j'ai choisi d'intituler cette séance « Le moi ». Voici comment Maritain résume ce qu'il a pu glaner. N'oublions pas qu'il a sous-titré sa philosophie bergsonienne comme une enquête, comme un procès. Il s'agit de mettre à la barre l'accusé, finalement Bergson, et de trouver des arguments pour montrer son génie et en même temps sa limite. N'oublions pas la conclusion, il y a un bergsonisme d'intention et un bergsonisme de fait. Pour Maritain, la théorie bergsonienne, qui se meut constamment autour des notions de puissance et d'acte, sans arriver à les formuler et à les employer d'une manière rationnelle, pourrait apparaître, à un certain point de vue, comme une inversion de la doctrine d'Aristote. Comme elle s'attache au mouvement, non à l'être, aux données sensibles, non à la réalité intelligible, à l'action qui passe, non à l'acte, perfection et principe d'être, au lieu de voir dans l'âme l'acte du corps vivant, elle voit plutôt dans le corps l'actualisation de l'âme. Vivre pour l'esprit, c'est essentiellement se concentrer sur l'acte à accomplir. Et c'est par le corps que l'action s'accomplit. Vous mesurez combien Homo faber est important. La nuance n'est pas une subtilité de philosophe. C'est un saut qualitatif et c'est un saut, je ne sais pas comment l'appeler, épistémologique, épistémique et surtout une façon de voir l'homme, une façon de voir le moi. Maritain reprend un article publié en 1913 dans Foi et Vie, intitulé « L'âme et le corps ». C'est un article repris par Bergson dans l'énergie spirituelle. Et voilà comment on peut commenter ce que Maritain vient de décrire. C'est donc s'insérer dans les choses par l'intermédiaire d'un mécanisme qui extraira de la conscience tout ce qui est utilisable pour l'action, quitte à obscurcir la plus grande partie du reste. On est bien dans une philosophie de l'action. Et je répète la synthèse de Maritain, au lieu de voir dans l'âme l'acte du corps vivant, elle voit plutôt dans le corps l'actualisation de l'âme. C'est important. La première formule est une formule aristotélicienne et de philosophie réaliste, qui oppose puissance et acte. La deuxième est une philosophie de l'action, homo faber. Voilà donc, conclut Maritain, par une étrange mais fatale contradiction, l'esprit dépendant, dans sa vie même et son activité propre, du corps, qui n'est pourtant qu'une dégradation ou une distension de psychique. Voilà l'esprit finalisé par le corps qui le sert. Monsieur Bergson n'a en vue que l'action purement transitive de l'homo faber. Il ne voit pas que le corps, étant fait pour l'âme, est fait pour l'opération de l'âme, c'est-à-dire pour la possession spirituelle de l'être, parce que l'âme humaine, étant la moins parfaite des natures intellectuelles, et devant tirer ses idées par l'abstraction de l'expérience sensible, doit, pour connaître, être unie à un corps. qu'est-ce que le moi ? Le moi profond, pour Bergson, c'est finalement le moi du rêve, ou le moi d'en bas qui se concentre pour produire une action au dehors. Le moi, en philosophie réaliste, c'est à l'image de Dieu, et donc il est fait d'une certaine manière pour connaître Dieu. Dès lors, le rapport de l'âme au corps engage la connaissance. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous lire une grande partie de la note que Maritain place justement dans ce commentaire du moi de Bergson à la fin de son chapitre 10 intitulé « L'homme dans la philosophie bergsonienne ». À la fin de la première partie de ce chapitre, c'est la critique bergsonienne. Nous allons arriver maintenant à la présentation de la philosophie thomiste. Et avant d'entrer dans cette présentation, la note 82 dans les œuvres complètes permet de mieux comprendre en quoi l'union de l'âme et du corps en philosophie réaliste est finalisée par la connaissance de Dieu. Voici ce qu'écrit Maritain, sans doute. Parce que l'âme humaine est spirituelle, l'intelligence émane-t-elle de son fond substantiel, intelligiblement informé par celui-ci? En sorte que si l'âme n'était pas jointe à un corps, qui fait avec elle une seule substance, un seul premier sujet d'action, elle jouirait de cette connaissance intuitive de son essence que l'état d'union au corps et la loi d'activité que cette union comporte rendent présentement impossible. Ce sont les anges qui ont cette connaissance intuitive. Mais la lumière intellectuelle est si faible et si inférieure sa condition qu'une telle connaissance resterait insuffisante à lui faire savoir comme il faut tout ce qu'elle doit savoir. Avant tout au sujet de Dieu. Miroir de Dieu, inhabile à lire distinctement en soi-même le reflet qu'il porte, l'homme a une âme humaine qui ne saurait donc trouver, comme l'esprit angélique, dans la connaissance de soi par soi, la primordiale et principale perfection de sa vie de connaissance. C'est donc par la multiplicité des idées qu'elle tire des choses, et en se tournant d'abord vers les réalités extérieures, qu'elle doit tendre à cette perfection, avant de se retourner sur elle-même, en se connaissant par ses actes, et d'expérimenter au-dedans de soi, mais surnaturellement, par la connaissance de connaturalité propre au don du Saint-Esprit, celui qu'elle ne connaît naturellement que par les choses visibles. C'est fondamental parce qu'il s'agit de toute la création et de tout le rapport physique, corporel, que nous avons à tout ce qui est créé. Maritain conclut, c'est ainsi qu'à notre avis, l'on peut comprendre que l'âme humaine, qui, en tant qu'esprit, se connaît par son essence dans l'état de séparation, trouve cependant dans le bien de son opération propre, qui est la connaissance et l'amour qui s'ensuit, la raison finale de son union au corps, qu'il lui appartient en vertu de sa nature et de son degré propre dans l'échelle des êtres, d'informer substantiellement. Il nous faudra donc revenir sur ce mot de substance, puisqu'il termine ici cette note qui est un peu compliquée pour vous, chers auditeurs, mais qui mérite d'être lue, d'abord pour le style de Maritain, pour sa finesse et pour sa justesse, tout simplement. Comment Maritain conclut ? Ben, je crois que je vous laisse lire, je vais passer directement à la notion de substance telle qu'il la présente dans la philosophie thomiste, c'est-à-dire comment le moi est engagé autour de l'âme et du corps selon Aristote et saint Thomas d'Aquin. L'idée de substance est la détermination première et absolument nécessaire de l'idée d'être. Qu'est-ce que la substance ? Heureusement, Maritain va nous proposer des images. Partons de la théorie avant d'aller à la comparaison. La substance est ce à quoi il appartient proprement d'être. Ce à quoi il appartient d'avoir l'existence en soi. S'il n'y a pas de substance, s'il n'y a rien qui est l'être en soi, à coup sûr, il n'y a pas d'être, cela est bien clair. L'unique question est d'attribuer au mot « être » « existence » et à ceux qui s'y rattachent un sens réel. Autrement dit, de penser que la pensée n'est pas vaine et que le philosophe a le droit de prononcer la philosophie au sein de son intelligence et de l'exprimer au dehors autrement qu'en remuant le doigt. C'est la critique radicale à toutes les philosophies dites nouvelles pour Maritain, modernes, qui sont héritées de Descartes et dans la lignée dans laquelle Bergson est entré, puisque vous avez vu, il a opposé, Maritain a opposé dos à dos Descartes et Bergson, l'un ayant l'espace pour paradigme, l'autre le temps pour penser l'union de l'âme et du corps. La substance étant objet de perception intellectuelle, étant saisie comme telle par l'intelligence, à l'occasion d'une perception des sens ou de la conscience, on comprend sans peine que les sensualistes, qui ne tiennent pour vrai que ce qui tombe sous l'observation sensible, regardent la substance comme une fiction philosophique. On comprend aussi que la philosophie bergsonienne, qui philosophe avec les sens et l'imagination, considère la substance comme une image spatiale, arbitrairement isolée et solidifiée, comme un cadre vide, un milieu inerte, un fil à enfiler les phénomènes, un morceau de matière situé sous les phénomènes. En réalité, cette idée ne se rapporte nullement à l'espace et au contenu et au continu sensible. Elle se rapporte uniquement à l'être. La substance est tellement l'être, objet formel de l'intelligence, qu'en prétendant expulser de la philosophie la substance, les phénoménistes en ont simplement expulsé l'accident. Dans la doctrine phénoméniste, il n'y a plus que des substances qu'on appelle sensations, images, états de conscience. Il n'y a plus que des milliers de petites substances imaginaires entre lesquelles on a partagé notre moi. La substance, Maritain en fait, on va dire, sa ligne de fond dès cet écrit de 1913, et de manière définitive dans sa réflexion. Je vais prendre un exemple qui vient après la guerre, en 1947. Maritain est alors ambassadeur à Rome pendant 3 ans, de 45 à 48, près le Vatican. Et il écrit en 47 une réponse à l'existentialisme de Sartre, réponse qui s'intitule « Court traité de l'existence et de l'existant ». Et il revient sur cette notion de substance. Il rajoute même à cette notion de substance une notion de substance écrite avec un « e » et non avec un « a ». Et cette notion de substance va permettre de décrire le sujet. Tout ceci pour vous dire que lorsque Maritain entre sur la scène philosophique en 1913 avec sa philosophie bergsonienne, il est au cœur de la philosophie réaliste et de cette notion de substance corrélative de la notion d'être, et il va l'approfondir, puisqu'en 47 on trouve un approfondissement autour de la notion de substance en réponse à l'existentialisme et pour montrer que le premier existentialiste c'est au fond saint Thomas d'Aquin, démonstration qui s'appuie sur des textes antérieurs à l'écrit de Sartre et qui remonte à la période de la guerre. Donc tout ceci pour dire que Maritain n'est pas un auteur qui répond, uniquement à des auteurs selon la mode, mais qui mène une pensée personnelle qui va converger avec les préoccupations contemporaines et qui lui donne une sorte de profondeur, de puissance pour déceler les cécités, dirons-nous, de la philosophie contemporaine qui a sa grandeur, ses beautés cachées, ses vérités cachées, mais qui souvent les aborde avec un manque de recul. Maritain dit que pour sortir d'une aporie ou d'un raisonnement dialectique où la thèse s'oppose à l'antithèse sans issue apparente, il suffit de monter et non pas d'aller au milieu entre les deux et de faire une sorte de synthèse médiocre, mais au contraire de former comme un triangle à partir des deux oppositions et de monter le triangle et de trouver de manière aquiline, hein, comme un aigle en hauteur, le point de vue qui permet de sortir de la dialectique. Tout à l'heure, nous continuerons sur la puissance, l'acte et la substance.